Le gang des hystériques. Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité.
La plupart d'entre vous le sentent.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements dans des coins.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres et bienvenue sur Le Gang des Hystéries, émission que vous pouvez écouter sur le site de Micro Rebelle et tous les troisièmes lundis de chaque mois à 23h30 sur PFM ainsi que plusieurs rediffusions la même semaine. Pour l'émission de ce mois-ci, je suis avec Lily.
Hello.
Je suis avec Roxane.
Bonjour.
Je suis avec Touga.
Coucou.
Donc émission encore bien chargée cette fois-ci, avec un délicieux reportage de Roxane que nous n'écouterons juste après. Mais nous allons d'abord commencer avec l'agenda. Lily, s'il te plaît.
Un petit agenda. Oui, alors on vous propose plusieurs dates en tout le monde, octobre et novembre. 19 et 23 novembre, des ateliers radio ados. Peut-être Touga, tu peux nous en dire un peu plus ?
Ouais, alors il s'agit du 19 octobre et du 23 novembre. Donc c'est des ateliers radio que nous faisons pour les ados. Bon, c'est assez large, c'est entre 10 et 20 ans. Et ça se passe à la Maison des Jeunes, donc dans notre studio. C'est en lien avec la Maison des Jeunes Buisson, où nous sommes implantés. Et l'idée, c'est de découvrir la radio à partir de différents formats radiophoniques. Et ça dure une heure et demie, entre 13h30 et 15h. Et alors pour celle de ce mois-ci, donc le 19 octobre, ce sera une spéciale Halloween. Effectivement, nous allons créer ensemble, avec les participantes et participants, une bande-son de l'horreur. Et ensuite, ce sera voilà, une fois par mois, donc en novembre, le 23 novembre, sur voilà, une autre thématique, un autre format. Voilà.
Ok, super.
Pour plus d'infos, il faut appeler la Maison des Jeunes ou Micro Rebelle. Je n'ai plus le numéro par cœur dans ma tête, mais ça se trouve sur Internet.
Ouais. Il y a aussi le 7 novembre un atelier, toujours un atelier radio, mais cette fois-ci pour les femmes.
Des choses à dire, c'est le nom de cet atelier, parce que oui, les femmes ont des choses à dire. Alors c'est un atelier qu'on fait aussi une fois par mois. Ça dure entre une heure et demie et deux heures. C'est à destination des femmes. Et l'idée, c'est de réaliser pendant cette année plusieurs balades sonores sur plusieurs quartiers du territoire. Et on commencera donc le lundi 7 novembre à 14h par une balade sonore dans un quartier de la ville de Méricourt. Et le rendez-vous, c'est donc à l'intérieur du centre social La Gare.
Mais qu'est-ce qu'une balade sonore ?
Eh bien, une balade sonore, c'est quelque chose qu'on écoute, qui nous fait découvrir un quartier de manière déambulatoire, avec des points, des arrêts dans ce quartier, dans ce cheminement, où l'on rencontre des personnes, où l'on rencontre des lieux, où l'on écoute différents formats sonores, tels que des interviews, des sons d'ambiance, des musiques, des chansons, des réactions, des poèmes. Voilà, et donc c'est quelque chose qui est en train de se développer dans le milieu de la radio. Micro Rebelle, on a déjà fait au moins deux que vous pouvez retrouver sur notre site. Notamment une balade sonore qui a été faite dans notre quartier avec des jeunes. Vous trouvez le lien sur la page principale. Et dans le cadre d'un atelier, une autre balade sonore qui a été faite dans un quartier d'avion. Ça vous donnera un peu une idée. Bon, l'idée, c'est de se faire plaisir. Hein. Je m'adresse aux femmes qui auraient envie de venir de participer. C'est vous qui allez manipuler les enregistreurs, mais ça se fait de manière très détendue. On est là pour découvrir un environnement et on est là pour découvrir comment prendre du son, sachant qu'on n'est pas du tout obligé de venir de Méricourt pour participer, bien au contraire. L'idée, c'est de venir des quatre coins du territoire et après, on changera de quartier.
Ensuite, on vous propose le 12 et le 13 novembre, plus plutôt pour les femmes dites maman solo, en fait, les femmes qui sont chefs de famille monoparentale. Un week-end d'autodéfense féministe. Donc c'est l'association Contrepoint qui vient proposer ces week-ends d'autodéfense physique et verbale donc pour les mamans solo. Je manque un petit peu d'infos, mais je vous propose de contacter le planning familial du Pas-de-Calais pour pouvoir vous inscrire, donc soit via la page Facebook, soit via l'adresse contact@planningfamilial62.org ou les appeler au 03 21 28 43 25. Voilà. Et il y a aussi le 14 novembre, un lundi du planning. Donc les lundis du planning, c'est des petites séances d'auto-formation ou d'échanges, débats, qui sont à la fois internes au planning, c'est-à-dire c'est les bénévoles, les salariés, les sympathisants, mais qu'on ouvre en fait, parce qu'on pense que les thématiques qui peuvent y être abordées sont intéressantes à plus d'un titre pour beaucoup de personnes, et c'est une occasion de venir rejoindre les militants, les militantes du planning. Donc c'est le 14 novembre à 18h au local, donc 45 rue François Gauthier à Lens.
Et le premier vendredi du mois de novembre, le 4 novembre, le bar LGBT, comme d'habitude. Donc ça sera pendant les vacances. Donc à voir si vous... C'est peut-être l'occasion de passer, voir un peu ce qui est fait pendant le bar LGBT. Donc moment convivial avec très peu, voire pas de musique, des jus de fruits. Et voilà, on papote à partir de 17h, toujours au local. Donc François Gauthier.
Et puis il y aura, donc ce sera aussi l'objet peut-être de l'émission du mois prochain, mais différentes actions évidemment autour du 25 novembre. On prépare déjà le terrain autour de cette journée de lutte, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et notamment, je pense au collectif féministe Arajois qui propose à 18h place des Héros un die-in. Pour rendre visible le fait que entre 120 et 140 femmes sont tuées chaque année par leur conjoint ou leur ex-conjoint.
Et on est déjà à 100 cette année.
Ouais, à 102, il me semble, hier ou avant-hier. Donc, je dis ça parce qu'aujourd'hui, ça a dû changer, évidemment. Mais cette journée, c'est global, c'est les féminicides, c'est les violences conjugales, mais c'est aussi les violences sexistes, sexuelles. Voilà, c'est pas uniquement les violences qui sont faites aux femmes dans le cadre du couple, ça va au-delà de ça. Et donc il y aura différentes actions autour, on en fera un peu la communication.
Et le planning sera présent autour de la commune de Le Forest,
si
je dis pas de bêtises, et ça sera les 22-25 novembre.
Voilà. Avec des actions auprès de collégiens, lycéens et des actions grand public le 25 après-midi à Le Forêt.
Est-ce que tu as parlé du soufflage de bougies du gâteau d'anniversaire?
Ça a été décalé.
Ah d'accord, je n'étais pas au courant.
Parce que le planning a effectivement 60 ans entre eux. Alors, il est né entre 1956 et 1963. Il est né progressivement. Donc, mais on a une date, effectivement, d'inauguration. On a, dans les archives, 60 ans d'archives dans notre local, retrouvé trace d'un discours inaugural qui date du 2 décembre 1962, avec des gens de l'International Parenthood Federation. Vous excuserez mon super accent.
C'est-à-dire
de l'IPPF qui est donc parce que dans les années 50-60 la question d'espacer les naissances et la question des conditions de santé des femmes était discutée internationalement dans des organismes comme au sein de l'ONU tout ça ou l'OMS et donc on a des grands pontes et de grandes pontesses qui sont venues le 2 décembre 62 pour inaugurer le deuxième planning familial ouvert en France et donc qui était à Lens. Mais on a aussi une inscription au journal officiel en tant qu'association loi 1901 qui date de 1963. Et là, on a des années très compliquées, dont tous les réseaux militants traversent un peu tout ça. Et c'était un peu prématuré pour nous de réussir à le faire fin 2022. Donc c'est reporté On espère en mars 2023. Ouais, je peux dire de bêtises.
C'est ça.
Normalement le 4 mars 2023.
Super, bon, on aura l'occasion d'en
reparler. Aux alentours du 8 mars en fait.
Ok, voilà, ouais. Super.
Donc voilà. Merci Lily pour toutes ces informations. Alors, agenda culturel un peu varié pour ce mois-ci. Qui souhaite débuter avec son...
Ça, bon, je peux faire rapide parce qu'en fait, je n'ai pas lu et tout, donc c'est un peu,
vas-y,
un peu illégitime, on va dire, quand même. Mais je voulais souligner le fait que, et c'est peut-être l'occasion de choisir certains de ces livres et de les lire, mais le fait qu'une première femme, une première autrice ait été admise, au, je ne sais pas si on dit admise, mais au prix, a reçu le prix Nobel de littérature, première femme française à recevoir le prix de Nobel de littérature, donc Annie Ernaux, pour, je pense, l'ensemble de son œuvre. Donc je pense que c'est, enfin, voilà, c'était assez notoire pour le, puis assez important pour le souligner, et puis aussi pour la petite joie, parce que bien que, alors certes c'est une femme, mais pour ma part, je ne trouvais pas qu'elle soit... comment dire, classé dans quelque chose, dans un courant très subversif, très polémiste ou autre, pas du tout. Et quand bien même la droite et l'extrême droite et pas que, hein, des fois un peu sur le centre, tout le monde a l'air d'en faire un peu une jaunisse qu'elle ait été choisie. Donc ça fait plaisir. Voilà, faut dire ce qui est finalement. Et donc nous, on la connaît notamment parce que au sein des mouvements féministes, parce que c'est une autrice, parce qu'elle écrit sur son ressenti, les ressentis d'une femme, mais aussi parce qu'elle a écrit L'événement, donc qui est autour de l'avortement et dont un film a été qu'on appelle ça adapté, librement adapté, donc l'an dernier, il me semble, je pense, ouais. c'est pas très vieux. Hein. L'an dernier ou cette année ?
Cette année, je pense, peut-être.
Ouais. Donc
ah
voilà.
Non, fin d'année de l'année dernière.
Peut-être.
Ouais, enfin, ouais. Ouais. Je l'ai vu en décembre.
Donc, voilà. Donc on vous conseille de voir et de lire L'événement, mais aussi de choisir peut-être un ou deux autres livres qu'elle aurait écrits pour vous faire votre propre avis avant de chouiner que c'est scandaleux.
Merci Lily. Touga, tu veux enchaîner ?
Oui, je voudrais parler d'un documentaire que j'ai vu cet été dans le cadre du Festival de cinéma de Douarnenez en Bretagne. Il s'agit de Mauvaise fille, de la réalisatrice Émérence Dubas, qui sortira en salle le 23 novembre. Donc vous pourrez aller le voir si vous en avez envie, et qui sort dans un cinéma de près de chez vous. En deux mots, hein, je trace le synopsis rapidement. C'est Émérence va à la rencontre de femmes qui ont aujourd'hui, je dirais, entre 50 et 70 ans, et qui ont connu un placement dans leur adolescence dans des foyers ou dans des centres religieux. Enfin, je ne sais pas quel est le terme exact, parce qu'elle ne correspondait pas à ce qu'on voulait qu'une jeune fille soit à l'époque. Et donc des lieux où il y a eu de la maltraitance notamment. Voilà, donc c'est un très beau film, très bien fait. La réalisatrice, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à l'issue de la projection, il y a eu un débat, puis après j'ai discuté avec elle. Elle a passé beaucoup de temps avec ces femmes avant de les filmer, et ça se sent vraiment. Il n'y a pas du tout de voyeurisme, il y a une réelle empathie et une douceur en fait dans ces rencontres. Et il y a des scènes vraiment assez, assez touchantes, notamment une de ces femmes, sa relation avec ses petites filles aujourd'hui, qui se questionnent sur son passé, sur ce qu'elle a vécu quand elle avait leur âge à elle. Voilà, j'en dis pas plus, mais ouais, je le conseille.
Merci Touga. Roxane, t'as quelque chose ?
C'est pas dans l'actualité récente, mais je suis en train encore de lire Réinventer l'amour de Mona Chollet. Alors... ça commence à faire un moment maintenant, mais quand même, c'est 2020, on n'est pas si loin. Et c'est toujours sympa de reciter cette autrice qui est quand même assez incroyable. Et donc, Réinventer l'amour, c'est vraiment fait pour tout le monde. Ça explore le thème, comment le patriarcat détruit les relations, qu'elles soient hétérosexuelles, homosexuelles, comment le patriarcat a des impacts terribles sur les relations humaines. là particulièrement amoureuse, mais voilà, j'aime énormément ce bouquin qui est comme une balade, un cheminement dans son univers culturel à elle. Elle parle autant de tableaux, de littérature que de séries, de films. Elle explore de façon très transversale ce thème et c'est pas du tout moraliste. Ça essaye de comprendre aussi certains mécanismes qu'on peut avoir où on reproduit des schémas, etc. Je trouve que cette autrice et ses autres livres sont beaux aussi, mais voilà, Réinventer l'amour de Mona Chollet.
Merci, et moi je vais vous présenter un livre d'une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps et qui est personne adorable, qui s'appelle Fred Colby, mais qui a changé, qui ne porte plus son pseudo, qui porte son vrai nom. Donc c'est Fred le Breton maintenant, si vous recherchez sur les réseaux sociaux et tout ça. Et en fait, il a sorti un livre il y a 2 ans qui s'appelle « J'espère que t'as pas le sida ». C'est la phrase que sa belle-sœur, c'est-à-dire la femme de son frère, lui a sorti un jour à table, alors que lui habitait à Paris et que son frère habitait toujours dans le sud de la France, pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Et en fait, c'était ça. Donc le livre tourne vraiment autour de... de qui il est, comment il a grandi, comment il a vécu, en sachant qu'il y a eu des violences dans la famille, avec un père alcoolique, la maman qui était un peu débordée et tout ça. Il a vite été placé chez ses grands-parents, après la difficulté en comprenant qu'il est gay, en fait, et de vivre dans des endroits où, en fait, on fait tout pour... en fait, il a été très seul, et jusqu'à ce qu'il arrive à Paris, qu'il commence à se faire des amis, qui commence à découvrir un peu la sexualité à Paris avec les sites de rencontres ou les lieux de drague, etc. Et jusqu'au jour où il apprend qu'il a le VIH. Et ça arrive jusqu'à sa vie récente, parce qu'on apprend après tout ce qu'il a fait depuis, où il a pu se faire des amis en travaillant chez Exd, par exemple, et tout ça. Donc, je vous le conseille. Donc, Fred Colby, j'espère que tu n'as pas le sida. Et pour les informations sur ce livre-là.
Il y avait aussi le film tiré sur la vie de Simone Veil, qu'il faut sûrement aller voir pour le personnage qu'elle peut représenter pour la vie politique française et la vie des femmes. Donc voilà, il est sorti il y a peu de temps, je crois, cette semaine, la semaine dernière, ou quelque chose comme ça. Et il me semble que c'est Simone Veil, le titre. Excusez-moi, je fais des choses un peu fort peu préparées aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a un film sur la vie de Simone Veil qui vient de sortir. Allez le voir.
Merci. Donc, pour le thème d'aujourd'hui, nous allons parler IVG.
Ça fait le lien.
C'est exactement, ça fait le lien avec la fameuse loi Simone Veil, effectivement. Et en fait, le 28 septembre dernier, c'était la journée mondiale de défense du droit à l'avortement. Et Roxane, ici présente, a pris son petit micro et est allée se balader pendant la manifestation qui était à Lille pour nous faire un très joli reportage. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots ou on écoute et on en discute après ?
Eh bien, je dirais que le rassemblement était quand même... La place de la République à Lille était bien remplie. C'était à la fois joyeux et il y avait quand même, je dirais, bien 300 à 350 personnes. Ce qui est pas mal pour une fois. Ça arrive que ces rassemblements-là soient moins... Donc là, c'était un beau moment, oui. Un beau moment.
Donc on vous passe le reportage et on en discute de suite après.
Le patriarcat en feu, les hommes au milieu.
Victime, on te croit, agresseur, on te voit.
Il lit Mona Chollet, mais jamais il ferme sa gueule.
Avec les décisions de la Cour suprême des États-Unis en février dernier, les menaces sur le droit à l'avortement rebondissent partout. Mercredi 28 septembre avait lieu une journée mondiale de défense de ce droit.
Manif à Lille pour la défense du droit à l'avortement.
« My Body, My Choice, parce que je trouve que c'est simple et efficace, ça résume exactement ce à quoi toutes les femmes et tous les hommes d'ailleurs devraient...
C'est pourquoi on se bat.
Et il est efficace et franchement, si déjà on appliquait ça tous les jours, les choses seraient beaucoup plus simples, comme ce slogan.
Si t'étais en charge d'une tribune pour défendre le droit à l'avortement contre des contre-avortements, quels arguments tu utiliserais ?
Moi, je pense que ce serait le fait que, en fait, on n'impose rien à personne. En fait, c'est comme tu le dis, c'est my body, my choice. Et en fait, il y a pas de, enfin, on n'impose à personne d'autre nos convictions. Et c'est vraiment dans le respect justement de chacun et de se dire si toi tu veux pas, il y a pas de souci. Mais moi, j'aimerais disposer de mon corps comme je le veux et je vois pas ce que tu devrais avoir à dire sur. Ce que moi je veux faire de mon corps et de mes idées et de mes choix en fait.
Je peux comprendre qu'on puisse défendre le droit à la vie, mais que en interdisant à des femmes d'avorter, c'est gâcher une autre vie et surtout deux vies, parce que en plus de la vie de la femme, il y a celle de son enfant. Parce qu'un enfant pas désiré, c'est difficile de lui accorder une place, de lui accorder de l'amour autant qu'à un enfant qui a été désiré. Et je trouve dommage que qu'on décide de la vie de quelqu'un à sa place et qu'on décide de la vie de deux personnes à leur place et surtout qu'on impose la vie quand on prétend vouloir la défendre.
C'est un droit, une liberté d'avoir la possibilité d'avorter et de le faire dans des conditions qui ne mettent pas nos vies en danger. Qu'actuellement, la liberté et les droits de nombreuses personnes et dont les femmes est remise en question en Europe et dans le monde. Et donc c'est important pour nous de se mobiliser et de montrer que non, on est là et massivement on s'oppose à ce que ces droits-là soient remis en question.
T'es contre l'avortement, je t'emmerde pas le monde et tu laisses les autres faire leur choix en fait. Enfin...
Le fait que les femmes puissent choisir ce qu'elles font de leur corps, c'est dans la société où on vit, ça a été une grande avancée, ça résulte de grands combats et il faut le défendre absolument.
C'est quoi ton slogan féministe préféré ?
Nos corps, nos choix. Je pense que c'est bien dans le thème et c'est vraiment, surtout dans le climat politique actuel, très 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 important de l'affirmer et de le réaffirmer.
Est-ce que tu veux me citer un pays où ça cause problème encore aujourd'hui ?
À la Pologne, on voit que la droite, voire l'extrême droite conservatrice est au pouvoir et on voit qu'ils ont bien reculé sur ces questions et que c'est très 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 dangereux pour le monde entier, parce qu'on voit que là en Italie l'extrême droite a aussi gagné. Est-ce que ça va aussi reculer dans ce pays-là ? Donc il est vraiment très important de le réaffirmer en France, où l'extrême droite est aussi très forte, que nos corps, nos choix, les femmes doivent pouvoir choisir ce qu'elles font de leur corps.
Les femmes ukrainiennes, réfugiées en Pologne, se voient refuser un droit auquel elles avaient pourtant accès dans leur pays. En Hongrie, la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur ce jeudi 15 septembre, impose aux femmes qui souhaitent pratiquer une interruption volontaire de grossesse d'entendre les premiers battements de cœur du fœtus. La plupart des experts médicaux considèrent que la notion de battement de cœur du fœtus est trompeuse lorsqu'elle fait référence aux premières semaines de grossesse. Le son entendu lors des échographies des premières semaines est en effet généré par l'appareil à ultrasons.
Oui, j'ai entendu, c'est scandaleux, c'est essayer de jouer avec les sentiments en créant des situations assez malsaines, parce que c'est pas normal de devoir entendre un cœur dire que c'est vivant ou pas. C'est, normalement, ça devrait pas être. Si une femme a envie d'avorter, elle doit pouvoir le faire comme elle le souhaite.
Et puis tu citais l'extrême droite, la montée des partis d'extrême droite, il y a une problématique qui semble très importante aussi par rapport à ça, c'est que les femmes ont droit de disposer de leur corps, et puis par-delà ça, quand on a un enfant non désiré, ça cause des problèmes de misère économique pour ces personnes qui naissent dans des familles qui n'en avaient pas les moyens, qui ne le voulaient pas.
Oui, bien sûr, c'est outre la, on va dire... la qualité de féministe, enfin le fait que les femmes doivent choisir ce qu'elles font, les répercussions sociales sont absolument scandaleuses, enfin sont horribles. Ça peut entraîner des mal-êtres, voire des crises sociales au sein des familles, enfin surtout pour les très jeunes. On est une organisation de jeunesse, la JC. Pour les jeunes, quand une femme a un enfant alors qu'elle est très jeune, ça peut causer des situations absolument dramatiques et entraîner des drames. Donc c'est très important de défendre ce droit à l'avortement, bien sûr.
Certaines femmes en viennent à avoir peur des hommes et à développer une haine contre eux, en général. C'est ce qu'on appelle la misandrie.
Bon, ça va être un peu provocateur, mais c'est men are trash, quoi. Les hommes, c'est des poubelles. Moi, j'ai vraiment... ça peut paraître un peu misandre. C'est vrai que...
C'est pas grave d'être misandre.
Ouais, c'est pas grave, parce que... En fait, je trouve que c'est légitime d'être misandre par rapport à tout ce qu'on a vécu. Les gens, ils nous disent, mais c'est pas normal de penser comme ça, blablabla. Bla, bla. Mais moi, j'ai vécu des choses qui font que J'ai peur des hommes et je déteste les hommes, donc men are trash, tout simplement.
Si tu avais des arguments principaux à dire, si tu étais en charge d'une tribune pour défendre le droit à l'avortement, tu dirais quoi ?
Question difficile, je pense déjà déconstruire les mentalités. Le premier argument serait ça, parce que en fait la société a donné un tabou à l'avortement. Alors que c'est normal, et heureusement qu'on a ce choix en France, même s'il est, il est encore limité, on n'a pas assez d'informations. Il y a des problèmes au niveau de l'éducation sexuelle également. Et en fait, il faut déconstruire nos mentalités et libérer la parole des femmes, des hommes, de tout le monde en fait. Et après, bon, j'ai pas vraiment d'arguments là sur le tas.
De quel droit est-ce qu'ils interdiraient l'avortement ? Ils interdisent l'avortement.
Pardon ?
De quel droit est-ce qu'ils interdisent l'avortement ?
Bah, en fait, c'est vraiment un tout petit nombre de juges qui se permettent. En fait, c'est le système américain aussi qui donne ce pouvoir à ce gouvernement un peu limité. Après, bon, il y a des problèmes politiques aux États-Unis, certains. Par exemple, même si dans certains États, il est autorisé d'avorter, bah, il y a tellement de lobbying que c'est difficile en fait d'avorter, même quand c'est légal, on va dire. Donc en fait, il n'y a pas de droit à interdire cet avortement. C'est un droit qui a été défendu et surdéfendu. On le défend depuis tellement longtemps. Je ne comprends pas comment en 2022 ça peut revenir comme ça.
Aux États-Unis, la Cour suprême a remis en cause ce droit qui dépend désormais de chaque État. À ce jour, déjà, 18 États interdisent ce droit ou sont en passe de le faire.
Moi, du coup, je suis responsable de l'antenne jeune d'Amnesty International. Et je suis là aujourd'hui parce que pour défendre du coup le droit à l'avortement, dans quelconque circonstance que ce soit, on assiste aujourd'hui à des régressions partout dans le monde, surtout en Europe, qui est censée être une région plus démocratique que les autres. Comme on a pu voir aux États-Unis aussi, enfin, c'est ce genre de régression-là qui nous font sortir dans les rues aujourd'hui et, pour protester, pour montrer notre colère aussi et pour essayer de faire avancer les choses.
Si tu avais 3 arguments, si tu étais responsable d'une tribune de défense du droit à l'avortement, qu'est-ce que tu dirais ?
Je dirais d'abord que ceux qui se disent pro-life ne le sont pas. Et que si on est vraiment pour le droit à la vie et pour le droit à la dignité, ça commence par la dignité des femmes et du respect de leur choix. Que des hommes peuvent venir en allié, mais n'ont pas la pleine légitimité d'avoir une opinion, de pouvoir décider pour les femmes. Donc laissons le combat aux femmes, à celles qui sont les premières concernées. Et également, qu'il ne faut pas présenter... je peux aller plus loin, mais pour moi, il ne faut pas mettre d'un côté l'avortement et versus la contraception. Pour moi, même les femmes qui ne prennent pas de contraception doivent pouvoir avorter. Il n'y a pas d'argument et de justification meilleur que les autres. C'est-à-dire que dans toutes circonstances, une femme qui veut avorter doit pouvoir avorter.
Des arguments ? C'est pas interdire l'avortement qui empêchera les personnes de le faire. Son corps, son choix en fait, et on a le droit, peu importe la situation dans laquelle on est, que ce soit une jeune fille de 16 ans ou une personne de 35 ans, on a le droit à tout moment de ne pas tomber d'avorter, et parce que c'est sa vie, mais c'est aussi une responsabilité envers l'enfant, puisque on est capable de dire non, soit on n'a pas envie d'élever cet enfant, soit on n'a pas les capacités financières ou morales ou que sais-je de l'élever et de lui donner une vie digne. ban of our bodies. Avec alors, l'accent. Arrêter d'agir, d'interdire des choses sur nos corps. Ouais, libérer nos corps.
Non, ouais. Arrêter de niquer nos mères. M-E-R-S, mais ça marche très très bien.
C'est, ouais. Bah ouais, c'est très
plus
bien.
Que c'est... La, l'évidence montre que ce système hiérarchique patriarcal est dominant. Il est aussi contre nature, puisque mer, les mers et les forêts, la mer. Tu vois, bon, moi je fais partie, enfin, je crois profondément, parce que je suis née dans l'animisme, dans la religion de la grande déesse mer, qui est matricielle, qui est ancestrale, à 2000-3000 ans, dans lequel le principe même du féminin. Elle était préservée et pas violée, et plutôt nourrie par l'amour collectif. Quel que soit le genre, ce n'était pas un sujet. En fait, le genre n'était pas un sujet, ça ne devrait pas être un sujet. C'est un sujet aujourd'hui, mais ça ne devrait pas en être.
Et puis on voit qu'il y a un lien avec la montée des extrêmes dans les pays où il y a du recul par rapport à ça. Et en fait, on ne prend pas en compte la misère économique et sociale dans laquelle on met les enfants qui vont naître d'une grossesse non choisie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais c'est vrai que on pense, y a tellement en fait, de cas pour l'avortement et on pense que oui, donner vie, c'est la plus belle chose et tout ça. Mais en fait, les conditions dans lesquelles l'enfant va vivre, et la mère aussi, hein, et le père, s'il est encore là, vont élever l'enfant. En fait, c'est bénéfique pour personne et... C'est pour ça que, enfin, avoir un choix, que ce soit victime de viol ou pas, en fait, enfin, ça importe pas. La raison pour laquelle on fait est pas importante. Juste, il faut penser aux conditions de vie de nous et de l'enfant avant de, enfin, faut proposer un bon cadre pour se permettre entre guillemets de devenir parent. C'est une très très grosse responsabilité, je pense.
Et qu'il vaut mieux, malheureusement, il vaut mieux être responsable de son acte en décider d'avorter que donner naissance à un enfant dans un monde où il vivra pas forcément bien et où il lui arrivera sûrement pire. Je pense que c'est pour ça aussi que le droit à l'avortement, c'est hyper important. Et ça fait super peur de voir que dans d'autres pays, comme en Amérique, ce droit, il a été supprimé, en fait. Parce que, enfin, déjà, c'est des personnes qui ne réfléchissent pas au bien-être de l'enfant. Ils pensent à des intérêts, que ce soit religieux, moral, en fait, c'est plus du tout en termes de respect par rapport à l'enfant, en fait.
Vous avez vu aussi qu'à Cuba, il y a eu des avancées sociale par rapport à ça.
Ouais. Mais en fait, j'ai vu qu'en fait, Cuba est devenue vraiment avec le mariage homosexuel et tout, et le droit à la gestation par autrui, un des pays d'Amérique latine le plus avancé. Et ça fait du bien, je trouve, de voir ça dans des pays ou des parties du monde où on peut se dire, ils sont en sous-développement par rapport à l'Europe ou par rapport à l'Amérique du Nord. Et en fait, on se rend compte que on a aussi beaucoup à apprendre d'eux. Et que de notre côté, avec la Hongrie, l'Italie, la Suède, on a de la régression qui est en train d'arriver, et franchement ça fait très peur. Et inscrivez l'avortement dans la constitution.
Pour revenir sur ça, moi je trouve ça très drôle, on va dire, dans une moindre mesure, du fait que Cuba, ça soit un pays un peu sous-développé, et que là il y a une avancée sur l'avortement, alors que dans des pays plus développés comme en Amérique, justement il y a un recul sur ça. C'est vraiment bluffant et ça devrait choquer tout le monde, en fait.
Les femmes de l'Amérique latine, de l'Équateur au Pérou, en passant par le Salvador et le Brésil, luttent sans relâche pour arracher ce droit et sont durement réprimées. Les Argentines et Colombiennes l'ont obtenu de haute lutte. La plupart des femmes d'Afrique et du Moyen-Orient vivent dans des pays où il est totalement interdit ou très restrictif. Même en Europe, ce droit est encore refusé aux femmes de Pologne, Malte, Andorre, Monaco. Et il est considérablement entamé en Espagne et en Italie par le nombre important de médecins qui se cachent derrière leur clause de conscience alors que l'avortement est un droit. Des femmes et des filles meurent toujours dans le monde car elles ne peuvent pas avorter en sécurité. D'autres sont emprisonnées pendant de nombreuses années. Ceci fait aussi écho avec la révolution féministe en cours en Iran. Durement réprimée elle aussi.
Est-ce que tu as entendu parler de l'actualité en Iran ?
Oui, bien sûr. Si on peut pas passer à côté, je crois. Surtout quand on est ici sur le parvis des droits de l'homme pour manifester pour la lutte pour l'IVG. Bien sûr que les droits fondamentaux de la femme sont aujourd'hui menacés en Iran et me révoltent. Et je suis de tout corps avec les Iraniennes qui se soulèvent dans les rues, bien sûr.
Tu as suivi l'actualité en Iran ?
Oui. Pour moi, c'est pareil. Ça fait partie... des droits des femmes à disposer de leur corps et de se vêtir comme elles le veulent. La liberté de porter le voile, qui est une liberté, un droit qui vient des femmes d'elles-mêmes. ça m'attriste énormément et ça aussi c'est quelque chose sur lequel il faut se mobiliser, apporter son soutien, montrer que même si on n'est pas directement concerné par la cause, on l'est quand même d'une certaine manière, plus ou moins proche, et voilà, c'est inadmissible et on ne peut pas laisser faire ça.
Pubis et forêt, arrêtons de tout raser. Moi je l'adore. C'est parce que j'aime bien quand on lit les trucs, le social, le climat, tout, faut se battre pour tout, et pas que de son côté. Mais on commence à y arriver. Voilà, vous vous souviendrez, pubis et forêt, arrêtons de tout raser.
Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons dont des milliers nous font nos femmes esclaves et brisons nos centrales.
En France, l'accès à l'avortement est empêché par les fermetures de maternités et donc de centres d'interruption volontaire de grossesse, les diminutions de budget allouées aux associations féministes, la double clause de conscience qui perdure et les délais qui sont plus restrictifs que dans d'autres pays européens et qui conduisent encore des femmes à avorter à l'étranger. Une loi de février 2022 a entériné le fait que les sages-femmes puissent pratiquer des IVG dits « instrumentaux » mais les décrets d'application ne sont toujours pas publiés. L'avortement est un droit qui est toujours attaqué. Des femmes et des filles meurent toujours dans le monde car elles ne peuvent pas avorter en sécurité. Reportage de Roxane pour Micro Rebelle. La très significative chanson « Debout les femmes » que vous avez entendue pendant ce reportage a été interprétée par une étudiante de l'Académie ESJ de Lille, École supérieure de journalisme, Anouk Gonnet. C'était en direct lors de la matinale de Radio Campus Lille à laquelle elle participait le mercredi 28 septembre 2022.
Le gang des hystériques. Le gang.
Merci Roxane pour ce magnifique reportage.
Je vous ai pas tapé dans les mains, mais on n'a pas des applaudissements en boîte, ouais, vous faire comme ça.
clap.
Non, c'était vraiment très cool.
Prise de son, récapitulatif, apport d'infos et tout, ouais, merci. Qu'est-ce qu'on aurait besoin de dire après ça?
Bah que la lutte continue.
Alors, on avait quand même comme proposition de revenir dans le quart d'heure qui nous reste sur peut-être approfondir deux ou trois points. Je pense qu'il y a un certain nombre de points qui ont déjà été soulevés. Il y a, comme vient de le dire Lily, beaucoup d'infos qui ont été données. Moi, en l'écoutant une première fois, j'avais noté un ensemble de points. On ne pourra pas revenir sur tout, on n'aura pas le temps, mais peut-être, moi, ce qui m'intéresserait en quelques mots, c'est de revenir sur ma proposition dans un premier temps, pourquoi c'est important de continuer à se battre pour un droit à l'avortement et de quel droit on parle aussi. Dans un deuxième temps, peut-être revenir sur les conditions d'avortement. Alors, dans le monde, on l'a déjà évoqué, mais si on a envie d'en redire deux mots, c'est l'occasion. Et je voudrais aussi faire un focus sur la France, parce qu'on parle de loi, on parle de droit. Et je me pose la question de commencer sur le terrain. Est-ce qu'avoir une loi, ça suffit? Et prendre l'exemple de la France avec est-ce que c'est toujours bien appliqué? Est-ce que c'est toujours bien vécu par... bien accompagné par le corps médical, c'est quoi voilà, cette histoire de double clause de conscience, la question des délais aussi, c'est évoqué dans ton reportage, mais voilà, on sait que sur l'Union européenne, les pays, c'est pas du tout le même délai, donc pourquoi est-ce que c'est du coup assez relatif? Et puis, dans un troisième temps, donc c'est lié avec tout ça, mais peut-être une analyse un peu politique de... la montée de l'extrême droite, du coup, quels sont les risques? Une avancée n'est jamais acquise pour toujours. Je me proposais de revenir là-dessus, si ça vous va.
Oui.
Toi, Lily, si tu devais écrire une tribune à destination des anti-IVG ou à destination de tout le monde de manière générale, peut-être des personnes qui se questionnent encore, qu'est-ce que tu mettrais en avant comme points principaux sur l'importance de rendre accessible l'avortement et dans quelles conditions ?
Voilà, merci pour le faire remarquer que mon sens de l'impro est très développé. Je sais pas si, alors de manière personnelle, je sais pas là si moi j'ai envie de perdre du temps avec des gens qui sont anti-choix, par exemple. Je veux bien prendre tout mon temps possible pour organiser la lutte, à la fois préserver ce droit et puis en acquérir d'autres. Mais je pense que, après, en tout cas dans le monde occidental, après les 60 décennies de réflexion, d'échange, de débat sur le bien-être de l'être humain, les avancées sur les libertés ou autres, si certains n'ont pas encore compris à quel point c'est primordial pour un être humain et notamment les femmes, de pouvoir faire leur propre choix de vie, de parcours universitaire ou pas, de carrière, et que nécessairement la maîtrise de la procréation, fécondité, enfin voilà, ce qu'on veut, est vitale. Je veux dire, à un moment, moi j'ai envie de dire, on parle pas une brouette, on la pousse, quoi. Donc, voilà. Peut-être qu'une des méthodes. Vous la connaissez ? Ah, voilà, c'est une de mes préférées. On ne parle pas une brouette, on la pousse. Du coup, je pense que je soutiens plutôt les initiatives politiques dont on a entendu parler ces derniers mois quand la claque états-unienne est arrivée. Hein, bon, après, c'est, selon les personnes, c'est une claque ou ce n'est pas une claque. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore dans beaucoup de milieux où on a une vision complètement tronquée des États-Unis. Si on la voit encore comme le rêve américain, bah oui, on a peut-être pu prendre une claque, mais quand on est un peu plus réaliste sur ce que vivent les hommes et les femmes de cet État, on sait bien qu'il y a des tas de problèmes, de problématiques de droit, en fait, là-bas, et de respect des personnes. Donc moi, j'étais pas tellement surprise. Sauf que cette claque-là a permis que des hommes et des femmes politiques s'interrogent sur le fait d'inclure le droit à l'IVG dans la Constitution. Bon, oui, c'est, voilà, comme ça au moins on arrête d'en parler, c'est protégé, mais ça ne réglerait pas les difficultés d'accès. C'est-à-dire que là, en France, on a un droit qui est plutôt clair, qui pourrait être encore amélioré. Je pense qu'on pourrait réfléchir, engager la réflexion sur la clause de conscience laisser aux médecins, ou en tout cas comment, dans le cadre de cette clause de conscience, eh ben, on organise la formation des médecins et la sensibilisation dès l'école de médecine pour qu'on ait plus de médecins, hommes et femmes, qui soient capables de, qui aient envie de travailler dans des centres pour IVG.
Je fais une petite parenthèse, Roxane, tu peux revenir sur la clause des médecins, la clause de conscience des médecins en cas d'avortement, qu'est-ce que ça signifie ?
Oui, parce qu'on entend dans le documentaire parler d'une double clause de conscience, et du coup la première clause de conscience est celle du code de santé qui comprend que tout médecin, médecine, praticienne de santé peut exercer une clause de conscience si ça s'oppose à son éthique, à ses croyances personnelles. Et donc la double clause de conscience, c'est qu'il existe à nouveau une autre clause de conscience contenue à l'intérieur de la loi de 1975 sur le droit à l'avortement, qui a été une concession faite par Simone Veil à l'époque aux parlementaires pour permettre à cette loi de passer, hein, quand même, parce qu'il y avait des réfractaires. Et donc elle comprend, celle-ci, des conditions qui ne sont pas toujours respectées. Les conditions qui sont que ce médecin doit immédiatement prévenir la personne qu'il ne pratique pas cette IVG, ne pas s'y engager et puis au dernier moment ou plus tard dire « Ah ben non, en fait, ma clause de conscience m'en empêche ». Et puis doit aussi obligatoirement envoyer vers une autre personne, de praticienne de santé qui peut
pratiquer l'opération.
Et donc, ce médecin, enfin cette personne n'a pas l'obligation de dire pourquoi.
Ah oui, et pas besoin de justifier de ses raisons.
Et toi, Lully, tu proposerais carrément d'enlever cette deuxième clause de conscience?
Bah, je pense pas, parce que dans ces cas-là, on interviendrait sur le fait de... Si on enlève la clause de conscience dans les questions d'éthique, c'est vraiment à réfléchir dans un dépassement. Il faut dépasser le cadre de l'IVG, par exemple. Donc ça peut aussi poser d'autres questions. Mais je crois pas que l'État, depuis la 75, soit clairement proactif, notamment dans les écoles de médecine. C'est-à-dire qu'il est complètement possible de mobiliser, en tout cas de transformer les mentalités. C'est quand même l'objet du discours politique, c'est l'objet du militantisme, associatif ou pas. Donc c'est possible de transformer les mentalités. Et donc c'est possible de transformer les mentalités des médecins qui entrent en école de médecine si cette question était plus visible, elle était plus abordée, s'il y avait des colloques du monde associatif, du monde des femmes qui auraient lieu dans les écoles de médecine. Tout ça, on pourrait du coup faire à nouveau comprendre à ces médecins, qu'ils soient hommes ou femmes, hein, qui se destinent à l'obstétrique par exemple, l'avortement est intrinsèque à la sexualité. Et donc s'ils ont l'intention d'être obstétriciens et d'accompagner les femmes dans les questions de maternité et de sexualité, ils doivent se dire que l'avortement est dans le package. Sinon, c'est pas la peine qu'ils choisissent cette orientation-là. Enfin, je veux dire, ça peut être quelque chose d'observé et d'édicté en école de médecine, par exemple. Parce que voilà, si la loi permet en France et qu'éventuellement on réfléchisse et qu'il y a comme un consensus autour de l'inscription dans la Constitution, il y a d'autres moyens détournés pour limiter l'accès à l'avortement. Donc il y a cette fameuse clause de conscience, il y a le fait que des hôpitaux ne trouvent pas, ont un centre IVG, mais ne trouvent pas suffisamment de praticiens, de praticiennes qui veuillent y exercer. C'est plus là que je trouve que la clause de conscience... parce qu'il n'y a pas vraiment de médecins pratiquant l'IVG dans les CIVG qui font opposition grâce à la clause de conscience. Ils ne viennent juste pas travailler là. La clause de conscience, elle peut s'appliquer. Et les difficultés de réorientation dont parlait Roxane, c'est plutôt si votre médecin traitant est anti-choix. Il peut, lors de le moment où vous lui confiez que vous avez besoin d'avoir recours à l'avortement, peut-être ne pas vous dire qu'il est clairement anti-choix et ne pas vous orienter. C'est là où il y a le bas blesse dans l'accès à l'avortement. Mais, ouais.
Et dans les témoignages que j'ai reçus aussi, il y a une jeune fille qui voulait faire une interruption volontaire de grossesse et qui s'est retrouvée avec un gynécologue anti-IVG qui, déjà psychologiquement, a été très dur, mais aussi a pratiqué de la violence obstétricale.
Bien sûr.
Donc, voilà.
C'est des choses qui sont encore courantes, qui créent des traumatismes, y compris de l'ordre de la sidération, et donc entrer dans tous les effets secondaires, les symptômes liés au psychotrauma. Ça, c'est sûr. Et je voulais juste terminer. L'autre souci en France pour limiter, qui a pour conséquence, je ne sais pas si c'est voulu, si c'est l'objet, mais en tout cas pour conséquence, la limitation de l'accès à l'avortement, c'est la fermeture des hôpitaux, des maternités et la réduction des moyens à l'hôpital public. Et donc, sur les 15 dernières années, on a 100 à 150 centres pour IVG qui ont fermé. Donc on peut toujours avoir une loi, on dit oui, c'est possible, si vous pouvez vous avorter, on ne vous dira rien. Mais si on ne peut pas avorter, s'il n'y a pas de lieu pour le faire, ça réduit nécessairement le choix et la planification de sa vie familiale.
C'est le problème en Italie, que rencontrent les femmes en Italie. Mm-hmm. Elles ont ce droit, mais le système de santé fait qu'on leur donne rendez-vous dans 9 mois.
Mm-hmm. Voilà. Il y a aussi la loi qui est passée sur l'allongement de 2 semaines. Que ce soit pour les vigies médicamenteuses ou pour la médicale, on va dire, par aspiration. Mais on remarque qu'en fait, il n'y a pas encore tous les médecins qui l'appliquent. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont restés, si je ne dis pas de bêtises, c'est 5 et 12 semaines de grossesse, que ce soit pour médicamenteuses ou pour... Alors que maintenant, on peut aller jusqu'à 7 et 14, respectivement, quoi. Donc là aussi, il y a un gros problème au niveau des médecins qui ne veulent pas
aller dans les délais qui sont maintenant légaux et qui restent bloqués sur les anciens délais et donc qui refusent l'IVG et donc obligés d'aller ailleurs, quoi.
Oui, il y a un clairement non-respect de la loi. Pour le coup, on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire ou autre et tout. La loi est passée, elle doit être appliquée. Et on a des réponses sur une... qu'on est encore en train d'observer. Hein. Donc, c'est sur une difficulté de mise en application de ces deux dernières semaines, notamment, de 12 à 14... qui serait problématique parce que ça ne serait pas le même acte, le même geste médical. On est aussi au niveau de la Confédération nationale du planning en train d'observer pour voir aussi quel type de recours on pourra mettre en place. Bon, on sait que par exemple aux Pays-Bas, là où nous au planning du Pas-de-Calais, on réoriente toutes les personnes qui ont besoin d'avoir recours à l'IVG en dehors du délai légal français, ils n'ont pas du tout de problème technique pour mettre en place l'IVG jusqu'à 22-23 semaines. Donc, voilà, on part d'un postulat où pour nous, on ne voit pas trop pourquoi le geste technique changerait. Pour l'instant, on les laisse un temps d'adaptation, mais si on voit qu'en fait, c'est juste un délai pour... pour rechigner, il faudra effectivement qu'on songe à une autre forme de communication, comme euphémisme.
Alors, je posais cette question au début parce que dans un des ateliers, j'ai accompagné des jeunes dans un lycée qui ont fait un micro-trottoir au sein du lycée sur la thématique de l'interruption volontaire de grossesse, avec cette question que je trouvais un peu touchy au début, de genre, qu'est-ce que vous pensez de l'IVG? Je me suis dit, oulala.
C'est quoi l'IVG?
Les gens savent plutôt ce que c'est. Ça, c'est la première remarque que je ferai, en tout cas dans ce lycée. La deuxième remarque, c'est que plutôt les gens étaient pour. Donc, il y avait aussi du personnel d'interroger, mais c'était surtout des jeunes. Et j'ai été assez marquée par plusieurs jeunes qui ont eu une réponse qui allait plutôt dans le sens de « je suis pour », mais avec quand même ce truc de « bah, ça dépend ». Et on n'est pas allé plus loin parce que c'est un micro-trottoir et que ce n'était pas un débat ou une rencontre. Mais du coup, je me demandais un peu, alors je n'aurais pas la réponse de ce que ces personnes-là précisément entendaient par « ça dépend ». Mais du coup, je m'adresse aux personnes qui peut-être savent ce qu'il y a dans les programmes scolaires.
Rien.
Est-ce que c'est discuté? Est-ce que dans les cours, c'est parlé? Est-ce qu'il y a, quel est l'accès pour des jeunes sur ce que c'est que l'avortement, le droit, tout ça?
Alors, je mets ma casquette de prof, donc je fais le cours en quatrième sur la reproduction et il faut qu'on parle toujours de la partie médicale. Quand on traite d'un thème sur la biologie, il y a toujours la partie médicale qui arrive et moi dans mes cours, ce que je fais, c'est quelles sont les aides pour avoir un enfant et les aides pour ne pas en avoir. Et après avoir parlé des moyens de contraception, on parle des moyens de contragestion. Donc pour arrêter la gestation, et je parle de l'IVG, mais je ne peux pas rentrer dans le détail où c'est à la question de l'élève, mais sinon, ce n'est pas plus développé que ça. Et pareil, dans les manuels scolaires, je ne pense pas que tout s'en parle, ou rapidement, c'est un document sur tout le bouquin. En tout cas, en collège, c'est très peu abordé. Au lycée, ils ont déplacé maintenant le cours sur la reproduction et sexualité, c'est en seconde. Mais je ne sais pas le contenu du programme exactement si on reste toujours dans la reproduction. C'est-à-dire qu'il y a un homme, il y a une femme, il y a deux cellules reproductrices et ça fait un enfant.
Okay. Après, ce qu'on constate tristement, c'est que la loi... j'ai l'impression que je me réveille. En fait,
c'est ton cheval de bataille, Lily.
Ouais, je peux pas faire une émission sans en parler, c'est pénible.
La loi 2003, tu veux dire?
2001, pardon.
De notre chère maire de Lille.
Voilà, de la loi dite Aubry qui stipule qu'il devrait y avoir 3 séances d'éducation à la vie affective et relationnelle et sexuelle depuis le CP jusqu'à la terminale. Donc adapté à l'âge évidemment des enfants.
3 séances par année ?
3 séances par année, pas 3 séances entre le temps où on est rentré au CP et qu'on sort de notre terminale. Non, 3 séances en CP, 3 séances en CE1, 3 séances en CE2, et ainsi de suite.
Avec ça, on pourrait imaginer qu'effectivement, en sortant du lycée, les jeunes savent ce qu'ils ont le droit de faire à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut leur faire à eux-mêmes? Comment prendre une contraception, qu'on soit un garçon ou une fille? Comment avorter si on se trouve en situation de grossesse non désirée? Tout ça, on pourrait l'imaginer. Mais c'est pas le cas. La loi est pas ou très peu appliquée. Non, elle est pas appliquée. C'est-à-dire qu'il y a des cours, comme le dit Flo, il y a quelque chose sur la qui est considéré comme une de ces séances, donc sur la reproduction. Mais je pense que tout le monde, en dehors de toute polémique, peut concéder que apprendre ce qui est passionnant, hein, d'ailleurs, hein, le fonctionnement de la reproduction, la division des cellules lorsque les gamètes mâles et femelles se rencontrent, voilà, c'est passionnant, mais ça n'aidera jamais aucun humain sur la planète à savoir comment il va espacer les naissances, comment il va empêcher d'avoir une grossesse, comment ça va lui apprendre à avoir une relation sexuelle épanouissante et non contrainte, enfin voilà, c'est autre chose. La science nat, c'est autre chose. Peut-être qu'il y a ringard sur SNAT, c'est biologie ou je sais pas quoi. Donc il y a du boulot. On peut aller harceler ses directeurs et directrices d'école principales, principaux, tout ça, pour qu'ils mettent en place. Parce qu'ils ont des enveloppes budgétaires à ce propos. Voilà. si, ils les ont. Ils en font autre chose, mais ils les ont.
C'est ric-rac, mais ouais, ça se peut.
Voilà, voilà.
Oui, on arrive déjà à la fin de cette émission. Ça passe toujours trop vite. Donc, merci Lydie, merci Roxane, merci Touga.
Et merci Flo.
De rien. Et on va se quitter avec un duo que j'aime beaucoup qui s'appelle IBI et qui sort une nouvelle musique qui s'appelle Juice of Mandarins. Et on se laisse avec ce petit morceau et on se dit au mois prochain. À bientôt.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. My love for you, my love for you. In quiet, you are the thunder, thunder in my planet. You mark my body, breeze all over my skin. Our lips sharing the juice of mandarin. And in the house on the hill, I'm fascinated by how you make me feel. She breathes out and I exhale in. And now I'm high, was it all a dream? Detonating. I see us sharing the juice of mine.